Coq à l'âne. Okay, 3, 2, 1,
let's jam. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Coq à l'âne. Du côté de Briançon, là, ça fait plaisir, hein, relais d'Alsace, une fois par mois de se délocaliser pour ce numéro 619, hein, du Coq à l'âne avec nos deux coqualiens briançonnais favoris. Philippe Stockley qui est là.
Bonjour.
Salut Philippe. Et Jean-Paul Grolier.
Et bonjour.
Salut Jean-Paul. Et notre invité, maire de la Salle des Alpes, Gilles Perly. Gilles, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, comme d'habitude, Gilles, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous avons Philippe qui nous fait toujours son petit papier, son petit mot d'introduction, son papier d'humeur, son édito. Comment on peut dire ça comme ça ?
On peut dire ça comme ça.
Alors, on t'écoute, on est tout ouïe.
Vous savez que j'essaye dans cet édito le plus souvent possible d'enfoncer les portes ouvertes. J'adore cette expression.
C'est rien de le dire. Ouais.
Mais comme souvent avec les expressions, je suis bien incapable d'en donner le sens précis. Alors, je google.
Ah, tu googles ?
Ah, je google.
Ah, tu googles, toi.
Et j'arrive sur un site qui s'appelle expression.fr, très original. Et je lis, enfoncer les portes ouvertes, énoncer une banalité en la présentant comme une découverte ou comme quelque chose ayant de l'intérêt.
Uh-huh.
Parenthèse transalpine, chez nos voisins italiens, ils disent inventer le trou des macaronis.
D'accord.
Ah oui, d'accord. Oui,
c'est pas mal, oui.
Ils n'ont pas de porte là-bas. Et si je voulais faire un peu d'histoire, attention, je n'ai pas dit chercher à faire des histoires. Mon directeur d'antenne ici présent, l'excellent Thierry Maslis, me le répète à chaque coq à l'âne, ne cherche pas d'histoire, Philippe. Un peu d'histoire, donc, avec un grand H. Au XVIIe siècle, l'expression enfoncer une porte ouverte voulait dire coucher avec une nourrice et croire qu'elle était pucelle.
D'accord, oui.
Voilà. Étonnant, non ?
C'est très étonnant, oui.
Mais, comme dirait le voisin de mon beau-frère, enfoncer une porte ouverte, ça fait toujours moins mal que l'enfoncer une porte fermée.
Ça, c'est sûr, oui.
Je voulais faire remarquer à ce stade de cet édito, donc je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, de faire trois citations des trois grands comiques français que je vénère. Coluche,
oui.
L'excellent Pierre Desproges,
oui.
Étonnant, non ? Et le
dernier.
Plus moins connu, Philippe Chevalier.
Ah,
vous savez, le chevalier
d'Aspalès.
Voilà. Bon, je voudrais rester encore quelques instants dans le domaine de la porte.
Oui.
Parce que j'adore également le célèbre « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». Alors ça, c'est magique. À l'origine, une pièce d'Alfred de Musset. Bon, on s'en fout complètement, mais c'est juste histoire de rendre à Alfred ce qui est à César. Une expression à laquelle je pense souvent quand je réfléchis, tel un gilet jaune la nuit, au sens de la vie.
Ouais.
Je parle du vêtement. Hein.
Oui, oui.
Devons-nous être dans le 1 ou 0 ou dans la nuance ? Comme dirait le voisin de mon beau-frère, dans la vie, rien n'est jamais blanc ou noir. Je sens que mes voisins sont...
Non, non, moi j'aurais hâte d'avoir le voisin de ton beau-frère un jour autour de la table.
Oui.
Mais vas-y, continue, je t'en prie.
Terminons sur le sujet, allez, avec dans le même style, ce que l'on appelle la vérité de la palisse. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie.
Oui.
Allez, continuons à terminer définitivement avec notre la palisse du 21e siècle, l'irremplaçable Johnny.
Ah oui.
Qui déclarait à l'arrivée d'un rallye dans le désert, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Et c'est une réalité, hein. On n'a pas inventé ça. Johnny l'a vraiment dit.
Ah oui. Je terminerai là, mais c'est promis, hein, avec les citations, avec une que j'ai aperçue en surfant, en regardant toutes ces pages de Google,
ouais,
avec le superbe « Je suis contre la mort » de Woody Allen.
Oui,
bon, ça n'a rien à voir, mais ça, c'est ça, tellement bon.
Et puis, ça fait toujours plaisir de citer Woody Allen.
Exact. Mais bon...
Tout ça, maintenant.
Oui, il faut y aller. Il y a deux minutes, j'entamais ce coq à l'âne avec la phrase. Vous savez que j'essaye, dans cet édito, d'enfoncer les portes ouvertes. Je voulais donc, aujourd'hui, en enfoncer une belle de porte. Porte. La parité homme-femme en politique.
Ah !
Un véritable scandale.
Comment ça ?
Toujours pour le même sexe en politique, c'est toujours les mêmes.
Toujours les mecs, c'est ça ?
Et vraiment des disparités d'un autre âge. Mmh. Regardez dans la vallée de la Guisane.
Mmh.
Trois communes, trois maires, et bien évidemment un sexe dominant. Toujours la même histoire. Mmh. Et c'est scandaleux. La vallée de la Guisane, deux femmes et un homme.
Ah oui, eh oui, c'est vrai.
Oui,
eh oui.
Il serait temps d'inverser un peu tout ça. Hein.
Toujours soucieux d'aider les minorités. Ce que ne fait jamais d'ailleurs le voisin de mon beau-frère. Je suis heureux et fier de recevoir ce maire esselé, perdu parmi les Amazones, ce dernier des Mohicans, ce village gaulois, lui tout seul. Gilles Perly, maire de la Salle des Alpes, comme par hasard la commune qui est au milieu des deux autres. Et j'imagine souvent que Gilles, tu dois te mettre au milieu pour éviter les bagarres. Alors, bienvenue au Coq-à-l'âne, entre hommes.
Oui, entre hommes, oui, tout à fait. Bon, alors, moi ce que je voulais savoir, parce que, bon, il y a Jean-Paul qui est là, qui arrivera en fin d'émission. Enfin, non, on va le laisser parler avant, hein. Mais il arrivera en fin d'émission avec son questionnaire de Proust.
Oui, oui,
on
est tout à fait, tout à fait. Je tâcherai de m'imposer de temps en temps.
Mais voilà. Tu as bien raison, tu as bien raison. Mais
je verrai bien.
Mais entre le moment où donc Philippe ouvre et où tu fermes, il se passe des choses dans cette émission.
Et oui.
Entre les deux différents sujets qui vont venir nous rendre visite, bien sûr. Difficile du coup de passer à côté des prochaines municipales qui risquent une nouvelle fois d'être chaud bouillant dans la vallée. Je débarque dans le coin, je m'installe dans la région, hein. Je connais pas bien, expliquez-moi Briançon, Serre Chevalier, les stations, les villages, tout ça. Non, parce que si on n'est pas de la région, faut avoir fait en général bac plus 3 pour capter tout ce qui se passe chez vous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer combien de maires pour la station? Combien de maires pour la station, Gilles?
Pour la station de Serre Chevalier?
Ah oui,
bah, on va dire 4 maires.
4 maires. Alors donc il y a 4 maires. La station qui est gérée par qui?
Par la Compagnie des Alpes.
D'accord, ok.
SCV.
C'est une entreprise qui dépend de la Compagnie des Alpes. Voilà. On l'appelle Serre Chevalier Vallée.
Voilà. D'accord, ok. Combien d'offices de tourisme?
Un seul maintenant.
D'accord. Donc il n'y a plus les petits offices qui existaient avant, c'est ça? C'est supprimé.
C'est-à-dire que les offices du tourisme qui n'étaient pas classés ont dû rejoindre la communauté de communes.
D'accord.
Donc avec la loi NOTRe. Donc il y a 8 communes aujourd'hui qui sont regroupées au sein d'une association.
Ouais.
Et qui dont la présidence est sur la communauté de communes.
Mmh. Et en ayant 4 maires sur une même station, ça doit être vachement compliqué tout ça, non?
C'est très compliqué.
Eh ben allons-y alors, expliquez-moi pourquoi c'est très compliqué. Alors toi, tu peux y aller, hein, parce que je sais que tu connais bien la région, puisque tu as été un élu.
Oui, alors c'est compliqué, pourquoi? Parce que c'est une vallée,
ouais. Hein,
c'est pas la station en haut de la montagne. La classique station, la Val Thorens,
ouais,
c'est
ouais.
Un peu du... Donc là, en haut de la montagne, Montgenèvre,
oui.
Pareil. Là, une vallée.
Oui, mais Montgenèvre, il est tout seul.
Il est tout seul,
tout à fait.
C'est quand même plus
et
facile.
Là, 4 maires. Donc avant, alors effectivement, c'était 1 plus 3. C'est-à-dire qu'il y avait Briançon d'un côté,
ouais.
Qui était quand même plutôt la ville,
ouais,
ouais. La culture. Voilà.
Ouais. Bon. Et les 3 petits villages de l'autre côté.
Et les 3 communes dites de la vallée de la Guisane, mm-hmm. Qui étaient les Serre Chevalier,
ouais.
Les 3 départs. On va pas dire qu'il y a 3 départs, puisqu'il y a un départ pour la station pas très loin d'ici. Donc là, tout ça, ça a été regroupé. Alors déjà... ça a donné lieu à quelques tensions, mais c'est-à-dire qu'il y a trop d'individualité dans cette gestion de vallée. Il n'y a pas de recherche du consensus automatique, c'est-à-dire de dire on raisonne, on a une vallée, on a une entreprise qui fait travailler les 4 cinquièmes de l'économie locale.
Ouais. Oui, deuxième entreprise des Hautes-Alpes d'ailleurs. Hein.
450 employés en saison quand même, la station. Hein, donc,
la première entreprise donc en fait, dans le Chicasse.
Ce qui est en train de m'expliquer, c'est que chaque petit village, donc chaque maire de village, en l'occurrence Gilles qui est là parmi nous, en fait, lorsqu'il décide quelque chose, il s'en fout de décider pour tout le monde ou pour la station, il décide pour d'abord son village.
Ouais, on travaille un peu comme ça.
Je suis un peu vache de dire ça, mais
on travaille un peu comme ça.
Parce que c'est pas une réalité.
C'est dommage. Et franchement, on essaie souvent de mutualiser sur des opérations. On n'y arrive pas toujours.
Ouais.
Donc, dans la vallée de Sercheux, il y a déjà plusieurs syndicats qui travaillent avec la montée mécanique.
Mm-hmm.
C'est déjà une chose qui est compliquée. Les gens comprennent pas trop. Vous avez le CIGED qui regroupe Monnetier-les-Bains et ma commune, la Serre des Alpes. Un syndicat pour Saint-Chaffré.
Ouais.
Et un autre syndicat, le Civu du Proël, pour Briançon et les autres communes.
Est-ce que vous auriez pas pu faire plus compliqué?
Moi, je débarque. Hein,
il y en a qui ont essayé.
Ben oui, alors justement, Gilles, toi, tu viens de débarquer il y a pas longtemps.
Moi, je suis là depuis 23 ans dans la vallée.
Oui, non, mais comme maire.
Mais comme maire, oui, ça fait 2 ans maintenant.
Ben voilà, donc tu découvres un peu tout ça. Ça doit te donner envie de te représenter, donc.
Oui, mais je vais me représenter.
Ah, bah voilà, donc. Voilà,
une information.
Ça, c'est une belle info.
Comme je l'ai déjà dit, pour l'instant, je ne sais pas dans quel ordre.
C'est-à-dire?
Bah, parce que je me représente peut-être pas comme maire, mais je veux continuer le travail.
D'accord, ok.
Voilà, il y a des gros projets sur la commune, et comme j'ai déjà dit, ça serait dommage de tout laisser en plan.
Gros projet,
voilà.
2 communes, vous prenez 2 communes. Saint-Chaffré, la Salle des Alpes.
Ouais.
1 kilomètre entre les deux. Dans une commune, Gilles, le premier, a un discours franc, clair sur les résidences de tourisme, sur les lits chauds, en disant c'est ça qui amène du client.
Ça, c'est un vrai problème.
Ils ont un projet de 1200 lits avec un porteur qui descend les touristes au pied de leurs escaliers et tout. Et voilà, le Gilles, il a un discours clair là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Il le faut. De toute façon, c'est le discours de toutes les stations d'Île-de-Snow.
Ouais.
Vous faites 3 km, vous arrivez dans une commune où les, communes, où les élus disent « Ah, ben, vous comprenez, j'arrive pas à louer mon studio, je vois pas pourquoi on ferait encore des lits chauds. » Mais je, voilà, je le dis carrément. Donc,
C'est laquelle, la commune où,
Saint-Chaffray.
À Saint-Chaffray. Donc, en fait, t'es en train de nous expliquer qu'eux, ils pensent plus, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, à leur gueule plutôt qu'aux autres.
Mais oui,
c'est ça, en gros.
Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le ski, il est concentré sur des périodes Noël, jour de l'an, à février.
Ah
ce qui est dommage.
C'est rapide.
Moi, j'ai 60 ans maintenant, je me rappelle quand j'étais gamin, je skiais jusqu'à début mai, des fois dans les stations. Mmh. Aujourd'hui, les gens ont changé de mode de vie, partent plus
leurs
souvent en voyage,
hein.
Leurs habitudes, mmh. Et donc viennent moins au ski. Donc, ce qu'il faut pour les faire venir au ski en janvier ou mars,
ouais.
Où là il y a des bonnes conditions, il n'y a pas de monde,
ouais.
Il faut qu'on ait des hébergements de qualité, mm-hmm. qui permettent d'accueillir des groupes.
Mm-hmm.
Alors, quand on dit des groupes, ce sont aussi des groupes qui ont un pouvoir d'achat et qui peuvent faire travailler l'activité de l'économie de la vallée. Et ça, c'est indispensable. Et donc, ça doit passer par la création de lits parce que nos ensembles importants de lits ne sont pas adaptés aujourd'hui, ils sont pas à la hauteur.
On est vraiment faillite de ça dans la vallée.
Oui.
Vraiment.
Il y a quasiment 50 000 lits dans la vallée, entre 45 et 50 000 lits touristiques.
Et il en faudrait.
Mais il y en a déjà beaucoup.
Il
y en a trop qui sont vieillissants.
Ah oui.
Et qui sont lits froids.
Voilà, c'est ça le problème.
D'accord.
C'est qu'il faut passer de lits froids, c'est-à-dire des lits
qui sont pas utilisés.
On le voit à Montgenèvre aussi. Ils ont le même problème avec les Italiens qui ne louent pas. Ou qui ne louaient pas, peut-être que ça va changer, ils viennent 15 jours par an terminer. Voilà. Il faut les faire tourner ces studios.
Lit froid, c'est moins de 8 semaines d'occupation sur l'année.
Ouais.
Donc c'est un problème de fond.
Donc c'est un vrai problème de fond.
Et c'est pour ça qu'à ce jour, c'est ingérable. Alors, souvent, on dit, dans cette vallée, il faudrait un vrai chef, quoi.
Ouais. Voilà. Ben oui, alors la question est pourquoi. Allez, on est quand même dans une période où vous avez remarqué que beaucoup de petits villages se regroupent pour en faire plus qu'un.
Oui, à vous.
Non, mais
oui.
Vous allez, ça arrive souvent, ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le BH, il y en a.
Oui.
Il y en a dans le Dévoluy. Pourquoi pas imaginer un jour une bonne idée, un truc génial, qui est plus qu'un seul maire dans la vallée, qui puisse lui décider que, ben voilà, on va faire des lits chauds qu'on soit pas obligé de demander au maire d'à côté qui lui a envie plutôt de garder son lit froid.
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein, comme à la Spalès. Hein,
Donc qui pourrait décider de ça? Qui pourrait, Gilles?
Comme dit Philippe, effectivement, il faudrait qu'il y ait un vrai leader qui axe sa campagne sur une fusion des communes dans la vallée Saint-Chevalier.
Mmh.
Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde travaille un peu pour sa paroisse.
Mmh.
Bon, c'est ce que je découvre. Hein. Moi, je suis un peu naïf là-dedans. Des fois, je m'embarque dans des choses. Mais j'ai bien compris que chacun défendait son beefsteak.
Ouais, ouais.
Donc aujourd'hui, pour Monnetier, c'est clair, il n'y en était pas question pour l'instant. Avec Saint-Chaffray, on a failli le faire. On a quand même travaillé 6 mois sur une fusion de communes entre Villeneuve-la-Salle et Saint-Chaffray,
ouais.
Qui n'a pas abouti parce qu'il y a eu des élections et malheureusement le maire qui était là à l'époque est parti.
Mmh.
Je pense que sans ça, c'était une chose qui était réglée. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que quand on a envie d'avancer sur un projet et qu'on en parle à la commune voisine, ben souvent c'est oui un jour et c'est non le lendemain, quoi. Donc voilà, on a du mal à concrétiser.
Quand tu me dis dans le BUH machin, je dis oui, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent ensemble pour avoir une école, pour avoir un truc avec les ordures ménagères. Ouais. Ici c'est différent. On a 3 communes qui ont leur budget, qui sont toutes bien puissantes. Alors les mettre ensemble pour gérer le domaine skiable.
Ouais.
Alors déjà faut prendre le truc à l'endroit. Déjà il faudrait qu'il y ait un seul
syndicat.
Gilles a expliqué, il y a 3 fonctionnements différents pour la station.
Ah oui, ce qui est aberrant.
Déjà qu'il n'y en ait qu'un, c'est ce que disait Madame le maire de Monnetier. Mmh. Commençons par ça.
Bah oui.
Ouais, vous voyez que c'est compliqué, qu'on n'est pas sorti de l'auberge ou du relais d'Alsace. Hein.
Mais ce qui est quand même très très satisfaisant, c'est qu'il y a 60 ans, c'était exactement le même débat. Et alors il faudrait se presser parce que dans les 500 ans qui arrivent, il n'y aura plus de neige. Donc on va se regrouper.
Il y aura ça plus sera trop tard.
Excellente conclusion.
Vous risquez de rater à 200-300 ans près une entente. Voilà.
C'est une belle conclusion sur ce sujet. En tout cas.
Ouais.
En tout cas, et puisqu'on parle de fusion, parlons de ce sujet avant de faire une première pause. ce sujet qui revient tel le serpent de mer au Alpin, la fusion entre le club de Briançon, les Diables Rouges, et le club de Gap, les Rapaces. Vous n'êtes pas sans savoir que évidemment les Rapaces sont en Ligue Magnus et
incroyable,
le retour du frère de la revanche des Diables Rouges qui sont revenus du Diable Vauvert on ne sait où, parce qu'il y a quelques mois on les enterrait.
Diable Rouge, Diable passé... Vauvert, excellent Thierry.
Ah oui,
excellent.
Oui, il y a du travail. Hein. Et donc, c'est
mais
quand
tu
même...
sais, ils travaillent au noir. Hein, alors donc,
ce qui est quand même très étonnant, c'est de voir donc comment ils ont inversé la courbe. Donc félicitations à Monsieur Le Bigot, parce que je pense qu'il
et
y a beaucoup.
Et à Claude Devez.
Bien sûr, tout à fait. Mais alors, la question, nous, on se l'est posée parce que on s'amuse à poser des questions sur notre site alpe1.com. Et hier, on s'est dit, bah tiens, alors qu'ils ont pensé, on repose la question, fusion entre les Diables Rouges et les Rapaces. Et ben étonnamment, on est toujours à peu près à du 50-50. En fait, on s'est retrouvé avec 42% de oui, 40% de non, et puis d'autres qui n'étaient pas... qui étaient,
si.
Voilà.
Mais les
donc,
lignes bougent.
On est toujours à peu près dans cette même
je
situation.
Je crois que les lignes bougent. Déjà, on est le seul département, je crois, où il y a deux clubs en Magnus, ouais, sur 12 clubs. Ouais. C'est assez formidable. Ce qui fait qu'avant-hier soir, avec une ambiance exceptionnelle, 2500 personnes, enfin, les gens dans les escaliers, c'était fabuleux.
Ça t'a rappelé des souvenirs. Hein.
Ah, ça m'a rappelé...
Des souvenirs de Ligue Magnus.
De Ligue Magnus, quand on avait gagné, c'était la même ambiance. On a cru qu'on était au moins champion olympique, voire voilà.
Et donc, du monde.
C'était fabuleux. Et ce qui était amusant, c'était de voir le président du conseil général, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais je
vois. Le conseiller départemental, le président du conseil départemental.
Qui était là avec tous ses adjoints.
Jean-Marie Bernard.
Jean-Marie Bernard. Et qui devait se dire, ah, j'ai une subvention... que je donne, et je trouve que c'est tout à fait normal d'encourager le sport numéro un, enfin c'est difficile avec tout ce qui est, mais le sport numéro un de la lutte de Gap, et là maintenant le pactole il va falloir peut-être te couper en deux à égalité.
C'est bien ça le problème.
Et j'ai l'impression que hier, parce qu'il y a eu quand même un événement considérable hier soir, vous le savez.
Oui, on en parlait en off. Le fait que, alors qu'on pensait qu'il allait rester, pour finir,
eh ben
non.
Le Luciano, et il se taille.
Il se casse. Voilà,
il se
absolument.
Casse.
Alors, moi, je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il aurait eu des propositions de Briançon?
Alors non, c'est inenvisageable. De toute façon, il semblerait que Gap veut faire des restrictions de crédit et compagnie, donc l'entraîneur. Briançon, non, c'est pas possible, puisque pour des raisons déjà de déontologie.
Claude le fait d'être venu partir,
on a demandé à Claude Devez d'arriver en demi-finale. Il est arrivé en finale et il l'a gagné. Ce serait vraiment très maladroit. Et puis alors, c'est ne pas connaître le Bigot qui lui a dit ben voilà, on a marché avec Claude Devez. Mais quand même, les lignes bougent. Et je pense que. Ah, il me semble que.
Pour les subventions, pour les faire au prorata de l'altitude, par exemple.
Non, c'est vrai. Il y en a qui vont faire la gueule.
Une idée.
Ouais. En tout cas, bon, on peut lancer dès maintenant l'idée. La ville de Gap peut sponsoriser en partie, ou tout au moins les entreprises, une petite partie, les Diables Rouges de Briançon. Pourquoi pas?
Alors, le problème, c'est que ce qu'on disait, hein, en parlant sur l'antenne d'Alpe 1, on se disait ça. On disait, oui, le gâteau des sponsors, il est ce qu'il est. Il ne va pas se multiplier par deux du jour au lendemain.
Non.
Donc, ça veut dire que ça risque d'être compliqué. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, je sais, Gilles, que tu travailles dans une banque.
Oui.
Laquelle?
La Banque Populaire.
Banque Populaire.
On peut faire la publicité.
C'est la Banque Populaire, toi. Oui. Bon, très bien. Ben, on l'a placé deux fois, on a bien fait.
Est-ce que tu mets des billes dans le hockey?
Non.
Non.
Eh ben oui, mais cette année, ça va devoir changer.
Nous sommes, la banque a fait des choix. Bon, à Paris, c'est la voile, quoi, avec le bateau Banque Populaire.
Bien sûr.
Et sinon, dans notre région, c'est le ski.
C'est le ski.
Donc, on est derrière les clubs de ski, les comités régionaux. On sponsorise des écoles de ski. Voilà, c'est.
Oui, non, mais c'est un choix. On peut pas tout sponsoriser. Non, mais on est d'accord. On est bien d'accord.
Je félicite. J'en profite. Je vais me faire pas que des copains, mais moi je suis grenoblois, hein, donc j'étais très content mardi de voir Grenoble champion de France, et de retrouver Briançon et Grenoble les prochaines, ça m'a ravi. Et puis j'ai tout de suite pensé aux finances du club, et je me dis que c'est vraiment une charge, enfin c'est un lourd fardeau là, parce que remonter en élite
et pouvoir, match, hein.
pouvoir
c'est
financer tout ça, c'est compliqué.
Ah, ça va être fou.
Moi, je suis un peu. Je sais qu'il y en a qui se donnent beaucoup dans le comité de direction.
Je suis un peu néophyte, mais. Pourquoi c'est plus cher? Parce que là, ils vont quand même.
Parce qu'il y a le double match.
Ils vont à Cholet, ils vont à machin, c'est vachement lourd.
Oui. Mais là, ils vont qu'une fois.
Ils se déplacent moins.
Voilà.
Moins loin, mais là ils se déplacent plus loin, mais plus souvent. Enfin, moins loin, plus souvent, alors qu'avant c'était plus, souvent. Plus loin, d'accord. Moins souvent.
Okay. Il y a à peu près 44 matchs, donc deux fois à Anglet, enfin je sais pas si Anglet il y est encore, deux fois à Strasbourg, deux fois à Nantes, deux fois à Rouen, alors que.
Amiens,
Amiens, tu Angers. Vois, ça leur fait plaisir.
Heureusement, d'aller. Dunkerque qui est pas.
Oui, voilà.
Sinon, ça ferait deux fois Dunkerque.
Voilà. Oui, ou alors, la Nouvelle-Calédonie aussi.
Ah oui, ça serait terrible.
Donc,
ça.
Donc le seul double transport qui coûtera pas trop cher, c'est Grenoble, bien évidemment, et Gap.
Et Gap, oui.
Mais en dehors de ça, je veux dire, le trésorier, il va se dire aïe aïe aïe.
D'accord, j'ai compris. Okay.
On va marquer une première pause. On revient dans un instant autour de la table pour ce numéro 619 du Coq à l'âne. À tout de suite.
Coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's go. Nous sommes de retour autour de cette table au Relais d'Alsace. Coq à l'âne numéro 619. Philippe Stockley, Jean-Paul Grolier, les deux coqualiens locaux. Et notre invité, donc, maire de la salle Les Alpes, Gilles Perly. Philippe, tu voulais parler encore.
On est toujours dans le
sur
local.
Sur les sujets locaux, pardon, excusez-moi.
Alors, il y en a deux qui ont un peu défrayé la chronique, comme on dit. Le premier, c'est madame le maire de Monetti, Anne-Marie Forgeau, qui est en ce moment un peu en difficulté administrative par rapport à un appel d'offres.
Ouais.
Où elle a été, il y a des élus qui sont accusés entre guillemets de favoritisme, etc.
Ouais.
Bon, tout ça pour dire,
c'est un grand classique, ça.
Voilà, les petites communes, je veux dire les maires, on va pas dire que bon ils y vont parce qu'il faut y aller, mais bon, ils ont envie, mais petites communes, gros emmerde, Gilles.
Ah oui, ça c'est vrai. De plus en plus aujourd'hui, tout ce qui est aspect réglementaire, juridique, tout ça, ça prend une place très importante. Donc, il vaut mieux qu'on soit bien entouré au niveau de nos directeurs des services et personnels de communes. Après, bon, pour être franc, mis à part ce qui se passe ce qu'on voit dans la presse, moi, j'ai pas trop suivi le dossier. En fin de compte, ils ont récupéré en régie les bains de Monetier. Il fallait vite faire des travaux pour pouvoir mettre en service le bâtiment avant Noël. Et puis voilà, après, je sais pas trop de quoi ils sont accusés.
Donc, vite, ça veut dire qu'ils ont choisi les entreprises vite.
Ouais.
Là, enfin, tout est parti.
Ils ont paré au plus pressé et aujourd'hui, ça se retourne contre eux.
Ah oui, interrogé pendant des heures par la police de Marseille, machin, tout ça.
Enfin, d'un autre côté.
Pour des voyous, quoi, c'est ça.
C'est pas sa société, personnellement.
Non.
Enfin, elle a des rapports avec cette société. Elle est pas, je sais pas. On peut pas discuter, hein, c'est une affaire qui est en justice.
Oui.
Mais, donc voilà, c'est quand même très très étonnant. Quoi.
Bah moi, c'était sur le registre de dire, vous voyez, une petite commune où tout pourrait se passer. Mais voilà, on peut avoir des. Moi, le ressenti que j'ai eu de cette histoire, c'est que Anne-Marie Forgeau s'est fait vraiment traiter comme un voyou, quoi. Elle était, mais six pieds sous terre. Quoi. C'était très dur pour elle.
Tous les conseillers ont été interrogés pendant des heures. Enfin voilà. Alors ce qu'ils ont fait, c'est travailler pour mettre en service un bâtiment qui soit opérationnel
le plus vite possible.
Et le plus vite possible. Voilà.
Le temps
pressé a peut-être favorisé involontairement les entreprises plus locales. Quoi,
voilà. Et puis là, il y a sûrement dénonciation de quelque chose à quelque part. Voilà,
un peu ridicule.
Oui.
Autre chose.
Le deuxième sujet qui a aussi défrayé la The Chronique, c'est le limogeage, on va pas dire autre chose, du directeur de l'office de tourisme.
Ah bah oui, parlons-en.
De Serge Chevalier.
Yannick
Mordu. Donc qui a été, limogé il y a quelques semaines. On va demander donc à Gilles ce qu'il en passe. Puis après, je ferai un petit jeu fake news pour savoir pour l'avenir de Serge Chevalier, Gilles, par rapport à ce limogeage.
Chronologiquement, un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, pendant des mois et des mois, l'Office du tourisme avait besoin de trouver un directeur. Je vais faire une parenthèse parce que pour faire un petit coucou à Mario Depuy qui travaille depuis des années l'Office du tourisme, qui fait un travail remarquable et qui était soutenu par beaucoup d'élus de la vallée pour prendre la suite. Après, bon, il y avait des problèmes de juridiques ou personnels, ça c'est son choix. Donc on a fait appel à un cabinet de recrutement, on a reçu plusieurs candidats. pour être directeur de l'office du tourisme de Serre-Chevalier, Valais-Briançon, qui est un gros office du tourisme. Bon, bah après, pour être franc, les candidats qui se sont présentés n'étaient pas de première jeunesse.
J'adore. Alors, ça, c'est méchant, ça.
Ah, mais bon.
T'es oublié que t'as 60 balais, hein.
Justement, moi, on va pas se plaindre qu'un élu parle comme ça.
Non, on va pas se plaindre.
Je prône pour le renouveau des conseils municipaux.
Et... Alors, est-ce qu'il y avait, il y avait du vieux, en gros, il y avait du pas frais, il y avait beaucoup d'expérience, ça peut être intéressant. Et il y avait aussi, je crois, qu'il y a eu Christophe Pirel qui a été proposé.
Qui était proposé, effectivement.
Qui était le candidat, soyons clairs, de Gérard Fromm.
Oui. Alors ça, après, on rentre dans un système politique qui, forcément, ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est l'éternel problème, effectivement, qui peut arriver. Du coup, vous avez choisi cette personne.
On a choisi cette personne qui, après plusieurs...
Je t'interromps. Il y en a eu beaucoup.
Il y avait 4 candidats, je crois.
4 candidats.
C'était pas beaucoup.
Non, pour une station comme Serge Vallier, c'est...
Ben, Anne-Marie comptait sur une personne d'expérience qui venait du sud de la France, qui était vers Montpellier, je crois pas Lavasse, enfin bon, qui avait vraiment une grosse expérience, qui avait fait de belles choses là-bas, et le contrat a failli être signé, et au dernier moment, il a privilégié Courchevel.
Ouais, je fais une parenthèse, parce que les candidats potentiels qui voient l'annonce de Serge Chevalier, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Téléphone, il se renseigne.
Bien sûr.
Ouais, putain, là, il y a 4 maires,
c'est bordel.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Je reste à Palavas, les flots.
Où je vais à Courchevel.
Lui, il est parti à Courchevel, mais il a pas fait long feu parce qu'un an après, il était débarqué aussi. Mais bon, je pense que c'est un poste qui est compliqué.
C'est un poste fusible.
Voilà. On demande au directeur de l'office de faire en sorte que tout se métamorphose, qu'il nous fasse venir des milliers de touristes dans la vallée, qu'il crée les événements. Sauf qu'aujourd'hui, dans les communes, on a moins en moins de pognon.
Et pas de moyens.
Et pour créer les événements,
C'est compliqué. D'accord. Okay.
Donc lui, il a été choisi comme on le voit dans l'article du Dauphiné. C'était le candidat qui nous a le plus convaincu sur le moment, mais qui n'avait pas effectivement une expérience de directeur de l'office de tourisme.
D'accord.
Donc il était ouvert à tout, il s'emballait sur plein de projets. Sauf que comme le budget était restreint, il fallait qu'on se concentre sur quelques événements, et c'est ce qu'il a pas su faire, quoi.
Et la gestion du personnel.
Bon, alors c'est difficile de s'immiscer là-dedans, hein, quand on est à l'extérieur. Qui a raison, qui fait bien son boulot. Enfin bon, donc il vaut mieux pas trop se mêler de ces choses-là.
Poste à danger quand même. Hein.
Mais l'ambiance n'était pas bonne et voilà. Ça a mal fini.
Du coup, qui a pris la place?
Donc aujourd'hui, qui fait l'intérim de nouveau, c'est Mario Depuis.
Oui, qui elle est compétente.
Qui se laisse un peu de recul là, pour prendre une position au mois de mai. Quoi.
D'accord, très bien.
Je regrette, moi, parce que j'ai l'article du 4 avril du Dauphiné Libéré, et je vois ce monsieur, je le connais pas particulièrement, mais je vois l'œil éveillé et compagnie. Je pense que dès le départ, quand certains disent il y avait une erreur de casting, peut-être qu'ils avaient un petit peu raison. Mais enfin bon, voilà, ceci.
Bah, tu parles un délit sale gueule, quoi.
On n'a dit pas les habits. Hein.
Ouais. Absolument pas, mais voilà. C'est assez étonnant comme photo. Ils l'ont choisi volontairement.
Bon, c'est le coq à l'âne, tu as raison, tu dis ce que tu as envie de dire.
La nouvelle association de commerçants de la vieille ville a été créée, parce que on parle de fusion des communes, mais au niveau de l'association des commerçants, il y a des divisions plutôt, c'est ce que je pense à l'extérieur.
C'est magnifique, ouais.
Mais il était venu les rencontrer, a priori, il avait plein de gros projets pour la vieille ville. Donc,
c'est bien.
Pour la gargouille.
Puisque tu parles de la gargouille, il y a un mois, on a parlé de remettre de l'eau.
Alors.
Et je vous rassure, messieurs, dames, il n'y a toujours pas d'eau.
Oui, bon,
voilà. On s'en fout pas, t'as failli le dire. Moi, je m'en fous pas du tout. Mais que c'est compliqué, braves gens, de mettre de l'eau dans la gargouille.
On disait l'histoire de rassembler les communes.
Ouais.
On était en réunion, on parlait de ça quand j'étais élu. Puis il y avait des gens de l'école de ski française. Et on leur dit, mais vous nous tannez pour nous mettre ensemble, mais vous, mais pourquoi il y a 4 écoles de ski? Faudrait vous mettre. Ah ben non, mais nous, c'est pas pareil.
Ah ben non, voilà. C'est jamais pareil. C'est toujours pareil, hein. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Hein. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. En gros, on pourrait dire autre chose.
Je fais un petit jeu avec mes collègues. Vous me dites si c'est une fake news ou pas. Hein, voilà. Je vais vous donner une.
D'accord.
Alors, c'est par rapport au prochain directeur de l'office de tourisme. La première fake news. Vous me dites si c'est fake ou pas. Christophe Pirel,
candidat de Gérard Fromm il y a 2 ans, va être le prochain directeur de l'Office du tourisme et il va diriger les opérations depuis Bordeaux. Vrai ou faux?
Mais c'est faux, évidemment.
François Badgili revient à Serre Chevalier et ramène de l'Alpe d'Huez l'arrivée du Tour de France en haut du col du Granon et le festival du film de comédie. Vrai ou faux?
Qui a attiré 25 000 personnes, paraît-il.
Moi, je dis faux, mais peut-être que s'il revient, peut-être, on aura le film, enfin, toute l'équipe de comment s'appelle ce film? J'ai oublié le
terme. La Grande Vadrouille.
Non, le film qu'ils ont failli venir.
Star 80.
Voilà. Ah, oui. Donc, je pense qu'il pourrait venir pour le troisième casting de Star 80, le numéro 3. Et ça serait peut-être une bonne idée. En tout cas, moi, je pense que c'est fake.
C'est faux, oui, tout ça.
Alors, troisième, un nouveau directeur prestigieux arrive dès le mois prochain, Serge Chevalier, avec au programme en juillet un concert de Daft Punk.
Ah, moi, je dis ça, ça serait bien.
Non, je ne demande pas si c'est bien ou pas bien, je te demande si c'est vrai ou faux.
Bah, c'est faux,
malheureusement, c'est faux.
Faux et inespéré en plus.
Ouais.
Et dernière question, l'office de Serge Chevalier Briançon est dissous, terminé, et chaque commune reprend son office de tourisme.
Ouais.
Vrai ou faux?
Moi je dis vrai.
C'est envisageable.
Et voilà.
Dans la logique des choses, quoi. Non, tout ça, c'est la première décision du futur président, ce serait de dire aux gens, allez voir un peu ce qui se passe au nord du 45e parallèle. Parce qu'ils sont.
Tu veux dire du futur directeur ou futur président?
Tous ensemble.
Directeur déjà. Voilà.
Qu'ils aillent un peu se balader ailleurs, dans la région des Trois-Vallées. Ça se passe mieux.
Ouais, quand même. De mon temps, on est allé avec directeur et compagnie à Val Thorens, qui est quand même la référence en termes de commercialisation et tout. On est sorti donc de là. Une réunion avec le directeur d'office, une pointure, une méga pointure. Et le directeur de l'époque dit en sortant qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, bon, je pense qu'on aurait su, phrase après phrase, à bien cadrer ce qui se passe dans cette vallée. Enfin, Thierry, je ne sais pas si ça s'éclaircit pour toi.
Oui, non, mais moi, je reste. Ça fait 20 ans que je suis arrivé dans les Hautes-Alpes. Je suis toujours circonspect devant cette vallée.
Non, mais tu parles de vallée. Effectivement, par rapport à une station comme l'Alpe d'Huez ou Val Thorens. Et la vallée, elle s'étend sur plus de 20 km et c'est pour ça qu'il y a plusieurs bureaux d'office.
Oui.
Donc ça sera un travail dans l'avenir de faire un vrai et bel office de tourisme central. Moi, je dis central comme ça par hasard.
Dans ta commune, dans ta commune.
À la salle, c'est central.
Pourquoi pas. Et donc, mettre les moyens. Et aujourd'hui, il y a Internet, il y a des téléphones portables. Enfin, les gens qui partent voyager et qui veulent des infos sur des communes ou sur des offices, ils prennent leur téléphone et ils cherchent ça sur Internet.
Exact.
Donc, il y aura un travail dans l'avenir à faire sur le.
Sur le digital,
et puis,
notamment.
Et puis la masse de personnel actuel qui, par rapport à des stations en Savoie, où le personnel représente une charge de 30% sur le budget, chez nous on est à plus de 50%.
C'est énorme.
Donc voilà, il y a une réflexion à porter. Mais sauf qu'il faut aussi que les locaux aient du travail.
Ouais.
Donc
Oui. C'est ça. C'est le serpent qui
se cousin de mon beau-frère.
Il y a eu le prix de l'humour politique. Tu as encore des trucs?
Non,
c'est bon. Il y a eu le prix, avant de donner la parole à Jean-Paul, parce qu'il attend ça avec impatience. Ah oui, non, c'est vrai. Hein.
Oui, j'attends ça avec impatience. Et puis je tiens absolument à ce que tu le redises. Ça inquiète mon voisin qui essaie de lire désespérément ce que je veux dire.
Comment je vais te manger?
Il y a eu, comme chaque année, le prix de l'humour politique qui a été décerné. Vous avez vu ça certainement. Avec le premier prix, donc le jury du prix Presse Club Humour Politique, qui était présidé par Nelson Montfort, a choisi donc pour le Grand Prix de l'humour notre représentant à Matignon, à savoir Édouard Philippe, pour cette petite phrase-là. Je vous propose de. Alors, c'est pas lorsqu'il l'a prononcée, je vais vous faire écouter, mais il explique. Comment, effectivement, il a eu ce prix. Écoutez-le.
On m'avait posé la question de savoir si tout remontait à Matignon. Et en fait, non, tout remonte pas. Juste les emmerdes. Quand ça va bien, en général, ça remonte pas ici. C'était une façon peut-être drôle de dire quelque chose de sérieux. Et je trouve que finalement, c'est une bonne façon de faire. J'ai toujours considéré qu'on pouvait faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux.
Ah oui, c'est vrai. On peut faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Un mot rapide, si tu veux, Gilles, sur notre Premier ministre, Édouard Philippe, comment tu le jauges, comment tu le vois depuis qu'il est en place?
Si, mais... Il n'a pas la tâche facile.
Bon, ça sert à rien de le dire.
Pas dit ça, mais...
Ouais, bah, à côté de Castaner, je dirais que c'est facile. Quoi.
C'est vrai que Casta, lui,
il a tout eu.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Hein. Non, mais au moins, le mérite qu'il a, c'est qu'il lâche pas pour l'instant.
C'est vrai.
Il lâche pas. Alors, est-ce qu'il
peut-être qu'on lui dit, lâche pas aussi.
Oui, peut-être aussi. Peut-être aussi. Un autre prix, prix spécial attribué à Gilles Legendre, président du groupe LAREM, hein, La République En Marche, à l'Assemblée, à propos des mesures sur le pouvoir d'achat. Voilà ce qu'il avait dit. Écoutez-le.
Et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite et alors dont nous portons tous la responsabilité. Moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat.
Voilà, ça c'est magnifique quand même. Ouais. Sans rire, dans un, c'était pendant un journal donc très sérieux. Hein.
C'est... Voilà. C'est pas lui dont la femme va être casée à la femme. Présidente de la fédération
oui.
des machins
alors,
des jeux.
La française des jeux. Oui, alors ça, des jeux. Alors attends. Alors ça, c'est bien que tu parles de ça. C'est très intéressant parce que j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est femme ou homme d'élu, on doit ne plus travailler? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que cette dame, avant que Gilles Legendre soit Gilles Legendre, hein, c'est ça. Eh ben, elle était
partie pour être présidente de la Française des Jeux.
C'est une nana qui a énormément de talent. Elle fait ce métier depuis des années. Et là, aujourd'hui, parce que son mari s'appelle Gilles Legendre, eh bien voilà, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est dire. C'est magouille.
C'est magouille primaire, mais voilà. Quand
mais
même,
oui, mais
quand
non.
Même.
Mais non, je suis pas d'accord. D'accord. Alors, je vais me faire encore traiter de pro-Macron, tu vois. Mais je m'en fous. Je trouve ça dégueulasse. Parce que cette bonne femme, donc du coup, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Elle doit arrêter de bosser. Et c'est pareil pour les mecs.
Parce que son
mari et c'est pareil
démissionne.
Pour les mecs. Oui, bien sûr, mais son mari démissionne. Non,
c'est
mais moi je trouve pas ça normal.
Salamé, c'est pareil pour des tas de gens. Enfin,
et
là,
moi je trouve
tout,
exactement, Gilles, qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est dommage. Elle était là avant lui, et c'est vrai que. Mais par contre, le lien est vite fait. Quoi.
Mais bien sûr, mais tout à fait, je suis d'accord, le lien est vite fait. Mais c'est vraiment terrible.
Je peux faire une remarque personnelle?
Bien sûr.
Je suis donc à la mairie de La Salle depuis.
Deux ans?
Oui, mais depuis deux mandats.
Oui.
Sauf que ma femme travaille dans la commune, elle a travaillé depuis, elle y est depuis 23 ans, elle y était avant moi. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais
il bagouille,
il qu'est-ce qu'il fait?
Mais non, mais en fait c'est elle qui t'a cassé.
Peut-être, c'est possible.
Non mais voilà, c'est enfin bon,
dans les villages ça discute.
Chacun voit midi à sa porte. Moi je trouve ça dommage. Toujours est-il que Gilles Legendre, bravo quand même. On a probablement été trop intelligent. Ça m'a rappelé, tu sais quoi? Un mot de Alain Béroux. Alain Béroux qui avait eu cette phrase, je l'avais gardée, je ne l'ai pas retrouvée, c'est dommage. J'aurais vraiment voulu la retrouver dans sa voix, ça m'aurait fait plaisir. Où il disait, j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt.
Il le disait souvent ça.
Eh ben oui, mais je l'avais gardé. Je l'avais gardé une fois et je l'avais en son et impossible de remettre
la main
dessus.
Le problème c'est quand on le sait trop tôt, on ne sait pas qu'on le sait. Quoi.
Voilà. Et donc ça méritait bien un prix politique aussi pour Alain Béroux.
C'était très beau. Mais de là à dire trop technique et trop intelligent, trop technique je veux bien, mais
trop intelligent c'était très maladroit.
Arrêter, oui.
Le prix du jury a été attribué au sénateur Bruno Retailleau, qui est les Républicains,
oui.
Qui dit « Si Wauquiez ne parvient pas à se montrer aussi intelligent qu'il l'est, il n'y arrivera pas ». Donc ça, c'est une apalissade hein, en quelque sorte.
Johnny,
voilà,
oui,
exactement.
Oui.
Si Wauquiez ne parvient pas à se montrer aussi intelligent qu'il est, il n'y arrivera pas. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Le prix de l'encouragement attribué ex aequo à Benjamin Griveaux, à l'époque, qui était porte-parole du gouvernement, après l'intrusion des gilets jaunes dans son ministère, ça j'avais trouvé ça super. Et où il disait, il était interviewé, il disait, on a eu un début d'année assez rock'n'roll, hein. Moi j'ai eu une journée portes ouvertes.
Eh ben voilà, très bien. Hein.
Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Et l'eurodéputé socialiste Emmanuel Morel, à propos du patron de son parti, Olivier Faure, que personne ne connaît, il disait pour savoir où est Olivier Faure, suivez les sifflets. Voilà, ça c'était pas mal aussi.
C'est vache.
Ah bah oui, c'est vache, mais bon, c'était là.
Peux parler, bon, ce que tu as dit de la photo de l'ex-directeur de l'Office.
Je maintiens qu'il n'a pas les yeux très éveillés.
Bon, c'est pas grave. On continue avec le prix du lapsus attribué à Agnès Buzyn. Écoutez bien ce qu'elle dit.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités, Monsieur le député Jean-Philippe Ny.
Voilà, au lieu des députés, on s'est retrouvé avec les retraités. Je vous fais écouter.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les retraités, monsieur le député Jean-Philippe Ny.
Elle s'en rend pas compte, hein, ouais, c'est parce qu'on sent.
Oui, c'est ça,
on sent.
Ouais.
Alors, le prix du tweet a été décerné à Gilles Boyer, conseiller auprès du Premier ministre, qui lui a écrit « Pour exclure, il faut le quorum. Pour avoir le quorum, il faut arrêter d'exclure.
Ben, »
ouais, ça s'appelle... une vraie logique, encore une appalissade. Hein.
Ouais.
L'ancien président François Hollande, lui, avait été primé en 2017, hein, et il a reçu cette année le prix des internautes pour ses Hollanderies, hein, parmi lesquelles notamment Emmanuel Macron, j'aurais pu le battre, mais j'ai pas voulu. Vous en souvenez certainement. Vous en souvenez certainement.
Magnifique.
Écoutez, là, c'était à son retour en septembre dernier. Il venait de sortir un bouquin, ou je sais pas. En tout cas, il était invité au journal. De 20h, c'était sur France 2, écoutez-le.
Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection ?
J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu.
Ça, c'est admirable. Ça, c'est admirable.
Ça, c'est quand même... C'est magnifique, quand même. C'est quand même magnifique. Le prix du jeu de Mio, M-I-O-T, en hommage à Jean Mio, le créateur du prix, est attribué...
Rien à voir avec le viaduc, hein, ouais.
Non. Est attribué à Éric Ciotti. Alors, Éric Ciotti...
C'est du lourd, là.
Ah,
là
c'est du lourd.
Là, tu nous diras un mot d'Éric Ciotti, après. Écoutez-le.
Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur du gouvernement et ce n'est pas acceptable et ce n'est pas supportable.
Là, c'était avant Casta. C'était au moment où nous avions le maire de Lyon,
Colomb.
Et voilà,
Gérard Colomb.
Voilà, Gérard Colomb, qui était en instance de départ. Donc, il n'y avait plus personne au poste. Enfin bref, c'était un moment un peu flou de la République et Ciotti avait eu ce moment en disant que le ministre de l'Intérieur était déjà à l'extérieur. Le prix de l'amour en politique attribué à Christophe Castaner. Ah ben le voilà, Christophe. Ah, le petit Totoff, à l'époque secrétaire d'État, il était chargé des relations avec le Parlement. Il parlait d'Emmanuel Macron. Alors j'ai pas retrouvé le son, mais il disait tout en lui est fascinant, son parcours, son intelligence, sa vivacité et même sa puissance physique. Et ça m'a fait rire aussi. Donc il a été récompensé par son...
Faire gaffe à ce qu'on dit.
Sa puissance physique, ça peut prêter à confusion. En tout cas, c'est vrai qu'il est tombé sous le charme de Macron, Christophe Castaner, qui mine de rien, hein, de son petit poste de maire, enfin député maire de Fort-Calquier, est aujourd'hui un des personnages importants de l'État, quoi qu'on en dise.
C'est quand même quelqu'un qui était candidat à la présidence du conseil régional pour le PS,
ouais.
Et à qui on a dit, Christophe, tu dégages. Comme il y avait la concurrence avec le Front National,
on lui
a dit tu arrêtes tout.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout arrêté.
Il a tout arrêté.
Il est parti, sauf qu'il a dit tiens.
Je vais rebondir de l'autre
PS
côté.
Terminé, direction.
Et on peut noter qu'il était à ce moment-là aux côtés d'un certain Christophe Pirel, puisqu'ils étaient tous les deux sur. Christophe était son suppléant. C'était sur la même liste, hein, au régional. Aussi. Voilà. Oui. Tout à fait, absolument. Donc il y en a un qui est resté, on va dire, fidèle à François Hollande, et un autre pas du tout. Et puis aujourd'hui, on voit que.
Fidèle à François Hollande, ça vous emmène au stade de foot de Bordeaux ?
Dans le stade de foot de Bordeaux, ça n'a rien à voir.
Ah, oui.
Je veux dire, c'est une nomination comme ça au sein de.
Comment ça, comme ça ?
Oui, il est président honoraire. Je veux dire, c'est demain, tu pourrais très bien être président aussi.
De quoi ?
Du stade de Bordeaux.
D'accord, mais on gagne des sous.
Rien du tout.
Ah, d'accord.
Ah non.
Tu vois, comme quoi.
Non. Il faut pas confondre entre président.
Complètement.
Il faut.
Mais
faut pas confondre.
J'ai un peu ton idée.
Oui, mais Française des Jeux, machin.
Il faut pas confondre.
Christophe Pirel, président, je sais pas quoi.
Il faut pas confondre président et directeur.
Oh, il y a des présidents qui gagnent.
On est d'accord, président-directeur, ça n'a rien à voir.
Je savais pas qu'il était sur Bordeaux.
Ben oui, non.
J'ai perdu le.
Il est uniquement donc président, donc.
Donc il peut venir à l'office de tourisme de Serge Chevalier.
Ah mais tout à fait, absolument. Mais de toute façon, il est là ici.
Va-t-il refaire candidature ?
Il est ici. Non, je pense qu'il est plus intéressé quand même par la ville de Gap et par la mairie. Donc je pense que il se lancera très rapidement. On va attendre un petit peu. Je pense que à partir de septembre, ça va s'exciter un petit peu, je pense. Tiens, en parlant d'anciens prix, il y en avait un qui était pas mal puisque tout à l'heure, c'était Bruno Le Maire qui avait eu, il n'a pas été cité là, mais il avait fait, au niveau des lapsus, il en avait fait un qui était formidable. Je vous propose de réécouter.
Nous sommes en train de recueillir toutes les demandes des communes qui sont concernées avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Colomb. et deux, que nous aurons l'intégralité des demandes. Gérard Collomb, témoin reconnaître.
Ah, il a pas découvert l'Amérique,
le meilleur. La lucidité d'avoir découvert de nouveaux mondes.
Voilà, oui, voilà, c'est ça.
C'est rigolo, il a bien rebondi. Non, non. Alors, tu as parlé sur le moment où il rebondissait sur le truc. Donc, vivacité d'esprit quand même à Bruno Le Maire. Il faut lui reconnaître.
Il se rattrape tout de suite.
Exactement. Hein. Écoutez tout.
Nous sommes en train de recueillir toutes les demandes des communes qui sont concernées avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Colomb. Et dès que nous aurons l'intégralité des demandes, Gérard Collomb, témoin reconnaître à Gérard Collomb la lucidité d'avoir découvert de nouveaux mondes.
Voilà, ça c'est formidable. Moi j'avais trouvé ça formidable.
Belle sortie. Hein.
Oui. Alors au moment où nous sommes en train d'enregistrer, nous avons la visite d'Arnaud Murgia qui vient nous saluer. Bonjour Arnaud Murgia. Vous faites un petit coucou au micro quand même. Dites bonjour.
Bonjour à tous et mes salutations bien amicales au maire de la Salle des Alpes.
Voilà, merci. Arnaud Murgia. Et qui est de passage. Donc, on voit un monde dans cette ville.
C'est pas fini.
Bah, c'est pas fini, mais presque.
Oui.
Le temps et ça passe vite, hein.
Oui.
Non, je croyais qu'on allait parler de Carlos Ghosn.
Bah ouais, oh, mais.
Ah, mais j'avais préparé une vanne.
Alors vas-y, fais ta vanne sur Carlos.
Alors Carlos Ghosn, soit on est pour, soit on est anti-Ghosn.
Ah oui. Puis qui plus est, Philippe, rien ne presse, on le fera dans 2-3 mois, il sera toujours en tôle, ouais. Hein, donc voilà.
Cela dit, coupable ou pas coupable, je trouve que la justice japonaise, elle est un peu harde, même très harde, voire trop harde. Enfin ouais. Bon, ça reste ouais. Que mon avis.
Ça surprend.
Je trouve que franchement là, c'est quand même terrible. Je sais pas, il a lâché 6 millions d'euros, je crois, en caution pour pouvoir sortir. Il est sorti, à peine sorti, ils l'ont repris et ils l'ont remis. Donc je trouve ça un peu dur.
Et il mange du riz tous les jours. Riz qui n'est même pas bio. Non, c'est vraiment dingue.
Chez nous on dit sa taille, là-bas c'est sa toille.
Oui, absolument. Et ben donc nous y sommes, mon petit Jean-Paul. Nous sommes arrivés au terme de cette émission avec ce pourquoi tu es là.
Voilà. Et ben donc on va essayer de
connaître de Proust
un peu plus Gilles, qui a quand même fait un rapprochement tout à l'heure avec les emmerdes des maires. C'était une de tes premières phrases, et ça on comprend que tous les élus, il y en a beaucoup qui doivent pas se représenter parce qu'ils doivent en avoir
ras-le-bol.
Je parle des petites maires, des petites villes. Bon, alors pour mieux te connaître, on te propose un petit inventaire façon Proust, ça, enfin voilà. Lorsque tu étais petit, d'ailleurs t'es pas très très grand non plus.
Oh, c'est ça. Et tu as remarqué quand même qu'il s'attaque vachement au physique, hein.
Ouais, non mais tout à fait. Ah ben là je suis en forme avec la photo de
veux dire qu'on se ressemble.
Ouais, tout
et
à fait.
Bim.
Oui, mais cette famille, parce que figurez-vous, tout le monde s'en fout, on a appris qu'on était cousins par alliance. Donc ouais. Voilà, alors Gilles, mon cousin.
Ah, je suis presque un vrai Briançonnais.
Lorsque tu étais petit, tu rêvais de quel métier?
Moniteur de ski.
Non,
c'est vrai.
Et à l'arrivée,
j'ai
banquier.
Failli faire.
Et à l'arrivée, banquier.
Oui, donc ça n'a rien à voir.
Ouais, ah non, ça, c'est sûr.
J'ai 20 ans sur vêtements, du jour au lendemain en costume. C'est vrai que.
Quand même, Gilles. Connaissez la différence entre Dieu et un moniteur de ski?
Oui.
Non.
Bah, Dieu se prend jamais pour un moniteur de ski.
C'est très bon, ça.
Gilles, quel est le principal trait de ton caractère en jouet? L'entêtement, voilà. Un sale caractère. Enfin bon,
je pense pas. Hein.
Ouais. Bon,
ça va peut-être être pris. C'est péjoratif, mais je pense que je suis un peu trop gentil des fois.
Ah, ben.
Très bien.
Mais bon.
Celui. Ah ben.
Ça peut être un défaut ou une qualité.
Ouais. Ben.
Dans la politique, c'est compliqué.
Ça peut être compliqué, ouais, mais dans l'entreprise, ça peut être une bonne chose pour le management. Ça peut être une bonne chose.
Tout à fait. Ça se rapproche d'ailleurs de la deuxième phrase, de la troisième phrase. Celui, le caractère, trait de caractère dont tu es le moins fier. Ça pourrait être la même chose d'ailleurs.
Oui, tout à fait, c'est vrai que ça peut être pareil.
Il faut dire ses qualités.
Ouais, de dire ses qualités.
Peut-être la persévérance.
Celui que tu détestes chez les autres. Je t'aime un peu la radinerie, la brutalité.
Non, c'est l'hypocrisie.
Ouais, la méchanceté gratuite de Jean-Paul Grolier quand il dit que je suis petit.
Oui, voilà.
ceux qui te serrent la main en te faisant un sourire et puis qui en ont rien à foutre.
Qui te regardent pas les yeux.
Ou alors qui te connaissent, qui te croisent et qui te disent pas bonjour.
Ça se rapproche de Luciano Basile qui, aujourd'hui dans le Gap, doit connaître des tas de gens qui vont dire alors Luciano, alors que vraiment ils en ont rien à foutre. Voilà. Bien. Sur une île déserte, qu'emportes-tu?
Alors, ça peut être un objet, une personne, n'importe quoi.
Un immeuble.
Une banque. Ça, c'est vraiment très con de prendre une banque.
Ça me rappelle le boulot.
Mon matériel de plongée.
Ça, c'est bien. Pas con, ça.
Alors là, super. Le casting d'un dîner idéal chez toi. Alors, avec des gens morts, vivants, contemporains, voilà.
Acteur, actrice, chanteur, n'importe qui, oui. Les personnes que tu aimerais avoir autour de ta table.
Mais les morts, on les mange pas, ils sont là.
Oui, bien sûr.
Je te signale qu'un de tes prédécesseurs, en tant que maire, nous a répondu, et ça va te mettre la pression, Voltaire. Donc débrouille-toi maintenant. Ouais.
Moi, j'avais dit à l'époque, je me souviens
bien. Il le dit à chaque fois, Sophie Marceau.
Alors, entre Voltaire et Sophie Marceau, puisque vous me demandez, je préfère Sophie Marceau, moi aussi.
Non, moi, ça serait plutôt tourner musique.
Tourner musique.
Bon, des groupes de mon époque.
Vas-y.
D'ailleurs, Strait, Bob Marley.
Des
choses exotiques, quoi.
Ah ouais, voilà, repas super. Avec Bob et
après
avec
le repas, t'es Marc détendu, Nofleur. Voilà.
Bob, Marc Nofleur, moi je dis que ça le fait. Hein.
Oui, alors il faudra te faire pousser des dreadlocks parce que là, c'est un peu faiblard pour ceux qui te connaissent.
Mais je sais pas si tu remarques, j'ai pas de cheveux blancs. Hein.
Oui, ah oui, d'accord. Ça, c'est sûr qu'on se la ferme du coup. T'as déjà parlé des gens de plus de 63 ans.
Prends ça dans le nez, cousin.
Il y en a deux qui en ont pris, voilà. Une rencontre qui t'a marqué, ou un spectacle. Une rencontre ou un spectacle, hein, voilà. Ou un livre, vas-y.
Ah, quelque chose qui reste en souvenir, quoi.
Quelque chose qui m'a marqué, épaté, ouais. Ou quelqu'un que t'as rencontré un jour.
Ça peut être. Moi, c'est un film.
Oui.
Ah, bah, ça peut.
Ça date des années 80, c'est ma femme qui m'a amené voir Midnight Express.
Ah,
ça m'avait vraiment.
78. Alan Parker. Ouais. Film d'Alan Parker. Excellent.
J'étais ressorti.
Excellentissime.
Retourné, quoi.
Ouais, mais ça, c'est mythique. Si vous n'avez jamais vu Midnight Express, allez voir Midnight Express.
Il a pris un petit coup de vieux.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Je l'ai revu il y a pas longtemps parce que j'ai un ami qui l'avait pas vu. Je lui ai filé le DVD, il a regardé, il m'a dit waouh, eh ben oui, waouh, absolument, ah, c'est scotchant, l'arrivée le départ à l'aéroport, c'est un moment avec la musique de Giorgio Moroder qui monte derrière et lui qui se retrouve là, et les flics qui pensent qu'il a de la dynamite autour de lui. Et en fait non, ils sont tous morts de rire, c'est du shit, on s'en fout et tout.
Philippe, tu comprends que Midnight Express, il a vachement travaillé depuis, c'était prévu tout ça. Non, pas du tout.
Voilà. Attends, Gilles, on n'était pas du tout
ça prouve que vous ne connaissiez pas, mais que tu as une excellente mémoire.
Ce film c'est un truc.
Un spectacle qui t'a scotché aussi.
Un spectacle scotché, c'est. Alors, ça n'a rien à voir avec mes goûts musicaux, mais j'avais fait un voyage professionnel avec la banque à New York.
Ouais.
On a eu la surprise un soir à Broadway de voir Mamma Mia dans un théâtre avec 100 musiciens. Quoi. Donc vraiment, live, c'était vraiment quelque chose.
Broadway.
Ah ben attends, un spectacle à Broadway.
Mais par rapport à mes goûts musicaux, j'ai eu la chance quand même à Grenoble aussi d'aller au concert de Bob Marley.
Oui,
en 1980.
Moi, je me souviens aussi, moi, d'un concert. Il fallait se mettre à 50 cm du sol parce que sinon, c'était dans un nuage.
Je vois de quoi tu veux parler.
Mais c'est sérieux. Hein.
J'ai vécu ça lors d'un de mes tout premiers concerts 1980. C'était au Forest Number One à Bruxelles 81 et c'était Earth, Wind & Fire. Et dans la salle, il y avait beaucoup de blacks et on était peu blancs. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine ambiance, une certaine odeur qui régnait dans cette salle du Forest Number One. Mais c'était un grand moment pour Earth, Wind.
Ton luxe, Gilles. Une ville, un voyage, une émission de télé, enfin bon.
Mon luxe, ce que j'attends, logiquement, je vais être à la retraite l'année prochaine.
Ah ouais.
Et comme je partais sur mon île avec mon appel de plongée,
ouais.
Mon rêve, c'est de passer un mois à Bora Bora, Tahiti, l'année prochaine. Ah, avec mon épouse, parce que sur l'île déserte, si je n'amène pas mon épouse,
ça va pas le faire.
Je vais pas rentrer à la maison ce soir.
Oui, c'est bien. T'avais pas prévu de le dire, tu t'es bien rattrapé, là. Ça va lui faire plaisir. La musique de ta vie, mais là, je crois que ça va être...
D'ailleurs, Strait, Bob Marley, ou autre chose.
D'ailleurs, Strait plus.
Plus d'ailleurs, Strait.
Oui. Un film, donc Midnight Express, trouve-en un autre.
Un autre.
Rien. Avec Sophie Marceau, ça lui fait.
Il y en a tellement.
Ah, la boum, là, par contre, ça vieillit.
Un livre.
Un livre, alors moi, pour être franc, je lis pas beaucoup de romans.
Ouais.
Quand je lis des romans, ce sont des autobiographies sur des sportifs.
Voilà.
Avant d'être à la banque, je voulais être moniteur ski, prof de gym.
D'accord. Alors Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy.
C'était un grand champion, mais c'est pas celui qui m'a marqué le plus.
D'accord.
Mais...
Est-ce qu'il y a une ville qui te ressemble ou un pays, hein, enfin, extension ou région,
comment je pourrais dire. Là, c'est.
Est-ce qu'il y a un
ça
pays
va être surprenant, mais enfin, je vais parler de mon meilleur ami qui est guadeloupéen.
Ouais.
Donc c'est une destination où je vais souvent et j'aime bien me retrouver là-bas pour faire le vide.
Guadeloupe. Les Antilles.
Le climat, les tongs, le soleil,
la plage.
Et voilà.
Mais bon, c'est.
Farniente.
C'est un contraste avec notre vallée de Serre Chevalier. Hein, mais là-bas, je me sens.
Oui, non,
mais
d'accord.
Par contre, j'y vivrai pas tout le temps. Parce que
vous savez, chez Renault, il y avait chez le DRH, il y a un voyageur qui arrive qui dit je suis Guadeloupéen. Quand c'est que je passe Guadeloupé 2
D'accord. Et on finit avec ta Madeleine de Proust.
Ah. Alors moi, tu sais, à chaque fois qu'il pose la question, j'essaie d'imaginer ma Madeleine, le truc qui me fait kiffer, quoi, le truc.
Ça n'a rien à voir avec Sophie Marceau.
Vous avez remarqué que tout le monde revient aux grands-mères. On ne parle jamais des grands-pères, mais toujours des grands-mères.
Et bien là, tu me tends une perche.
Oui. Ben c'est un peu exprès. Hein.
Alors moi, ça sera mon grand-père.
Eh ben, j'allais dire même chose, tiens, moi aussi.
Mon grand-père. Tu peux nous donner une petite anecdote.
Mon grand-père émigré italien au début du XXe siècle, qui venait de la région de Venise, à Bassano. Je ne sais pas si vous connaissez la grappa.
Ouais.
Hein.
Ouais. Ouais.
La grappa, donc ça vient de Bassano, dans le pays vénitien, là-haut. Une famille d'exploitants forestiers, de ça. Donc il est venu à Grenoble. S'installer avec son épouse. Donc il a eu 3 enfants à Grenoble et il a travaillé toute sa vie au Dauphiné libéré. Donc toute sa vie en tant que chef mécanicien au Dauphiné libéré, et il tutoyait le patron qui s'appelait Richereau à l'époque.
Oui, tout à fait.
Mon grand-père était délégué syndical responsable de la CGT au sein du Dauphiné libéré. Mmh. À ce titre, il était un peu stalinien sur les bords. Il fallait pas être propriétaire, il fallait pas avoir de voiture. Enfin, il a vécu comme ça tout le temps. Toute sa vie, il a bossé en Solex. Et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on l'appelait pour aller travailler. Et il allait tout le temps travailler à n'importe quelle heure parce qu'il fallait que le journal y sorte.
Ah oui.
Et c'était comme ça. Et le rapport avec le patron, le grand patron qui se tutoyait avec les employés, un grand respect mutuel. Mmh. Et il s'est battu pour des conditions de travail, pour plein de choses. Il a fini retraité sur la ville d'Échirolles, il s'occupait des anciens, enfin voilà. Il était toujours là pour donner sa chemise, pour faire quelque chose. Et c'est un souvenir que j'ai de lui. Parce qu'il n'y avait pas de loisirs à l'époque. Quoi. C'était le boulot, le syndicalisme,
ouais.
le rapport avec les gens. Voilà quoi.
Ouais. Ah ben écoute, alors là, c'est vraiment. On est tous les trois scotchés, c'est le cas de le dire. C'est la première belle Madeleine, superbe Madeleine qu'on a depuis quelques années.
Oui, franchement, c'est très bien. C'est très bien.
Et ça sera un joli mot de la fin. Il y a une place à son nom à la ville d'Échirolles.
Eh ben, mérité. Alors,
voilà.
Après ce que tu as
dit. Guérino, son prénom.
Guérino,
voilà. Guérino Perli. Ça a toujours été un exemple pour moi.
Et ben voilà, on termine sur une jolie note. Voilà. Et Gilles Perli, merci beaucoup. Philippe, on dit le mois prochain normalement.
Oui.
Hein, voilà, on dit comme ça. Jean-Paul, mois prochain.
A priori, je vous dirai s'il y a de l'eau dans la gargouille, mais c'est autre chose.
Merci, en tout cas, merci pour l'invitation.
Ben non, c'était un plaisir. À très bientôt. Passez un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.